Une plénière est prévue aujourd'hui mercredi à l'Assemblée nationale. Après une certaine période d'attente, il va être question de la mise en place de la commission paritaire majorité-opposition chargée de statuer sur la répartition des responsabilités au sein du bureau définitif, sans oublier l'élection même du bureau définitif de l'organe délibérant national. Clôture hier de la visite du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à Bounia en Ituri. Après sa visite dans le site des déplacés de Tseré, Volker Türk estime que la problématique de la protection des civils est une question primordiale. Maître Laurent Onyemba est l'invité de Radio Okapi en cette matinée. L'avocat de la famille Okende va parler de la nouvelle plainte déposée au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe par la famille de feu Chérubin Okende. Bonjour à tous. Installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Une plénière est enfin convoquée pour ce mercredi après une longue attente sans raison apparente. Cette plénière aura deux points à l'ordre du jour. Il s'agit de la mise en place de la commission paritaire majorité-opposition chargée de statuer sur la répartition des responsabilités au sein du bureau définitif et l'élection du bureau définitif même. Ce qui vient calmer certains députés qui ont même initié une pétition contre le président du bureau provisoire, accusé d'avoir bloqué l'installation du bureau définitif. Michel Kifindangoy.
La nouvelle de la convocation d'une plénière mercredi satisfait quelques députés qui pensaient déjà à la destitution du président du bureau d'âge pour avoir bloqué pendant tous ces jours l'installation du bureau définitif. La secrétaire rapporteure du bureau provisoire encourage tous les députés à prendre part à cette plénière afin d'épuiser l'ordre du jour de cette session inaugurale. Percy Nzuzi Umba.
La plénière apportera sans doute réponse à toutes les questions qui sont restées pendantes. Premièrement, l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, la mise en place de la commission paritaire majorité-opposition chargée de statuer sur la répartition des responsabilités au sein du bureau définitif.
Pour la secrétaire rapporteure, c'est au cours de cette plénière que sera adopté le calendrier de l'élection des membres du bureau définitif.
Nous avons entamé le processus de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, qui est la dernière mission du bureau provisoire. On ne peut pas parler des élections sans calendrier. Nous aurons plénière ce mercredi du 7. Le calendrier sera connu incessamment.
Cette plénière permettra aussi au Parlement de valider les pouvoirs des députés ayant été déclarés élus ou réhabilités lundi par la Cour constitutionnelle.
Toujours à propos des institutions officielles, notez que les regroupements et partis politiques consultés par la Première ministre ont jusqu'à demain jeudi pour déposer les listes de leurs candidats ministres auprès de la chef du gouvernement. Celle-ci a poursuivi hier mardi ses consultations avec quelques formations politiques, notamment A24, A25, 4AC, CODE et ACPA. Au sortir de l'entretien avec Judith Souminoua-Toulouka, le coordonnateur de l'ACPA et gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a révélé à la presse que la première ministre a demandé à son groupe d'apprêter une liste de trois noms pour l'économie et les finances dans 48 heures. Gentiline Ngobila est au micro de Jeff Ngoy.
Et comme vous le savez, notre formation politique, notre regroupement politique ACPA, s'en est tiré avec 13 députés lors des élections de 2023. Il était tout à fait normal que nous soyons associés à tout ce qui se passe actuellement et surtout en concernant la formation du gouvernement. Bon, nous avons été édifiés par la Première ministre, qui nous a parlé de la taille du prochain gouvernement. Il nous a également parlé des 6 engagements majeurs du président de la République concernant son deuxième mandat et des profils. Il nous a suggéré de proposer à chaque fois 3 noms pour chaque poste. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Il nous a donné des orientations pour s'y faire. C'est ce qu'on va faire. On a besoin pour nous de commencer à tout divulguer, mais elle a donné des orientations assez claires quant à ça. Je pense que le problème des temps ne va pas s'opposer, dans la mesure où la Première ministre nous a donné un deadline, dont nous avons jusqu'à jeudi.
Dans la province de la Tchopo, une dizaine des députés provinciaux risquent des poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption. Le procureur général près la cour d'appel de la Tchopo a adressé une demande de réquisition au président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo aux fins d'en obtenir l'autorisation. Jacques Mkonkole.
Ces députés provinciaux, 14 au total, proviennent de divers partis et regroupements politiques, notamment UDPS, MLC, AFCDC, AFDC ainsi que AEDCA. Dans sa lettre du 12 avril dernier, le procureur général, près la cour d'appel de la Tchopo, affirme que dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, ces députés ont été filmés au moment où ils étaient en train de négocier et de percevoir même des cadeaux, des présents, voire des sommes d'argent leur versées par des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Cela en échange de leur voix aux élections indirectes qui profilent à l'horizon. Par ailleurs, Albert Lusumbe Lukute a écrit au directeur de la société MPSA afin d'obtenir les identités des personnes qui auraient perçu des sommes d'argent entre le 1er mars jusqu'à ce jour, et aussi celles des personnes ayant effectué les transactions susvisées. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Et 48 heures après avoir reçu la demande de réquisition du procureur général relative à la poursuite de ses députés pour corruption, le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo répond. Dr Mathéus Kangalondimo dit qu'avant de réserver une réponse à cette requête, la procédure doit être suivie et il compte s'y conformer. On l'écoute au micro de Jacques Moukonkolé.
Nous sommes en train d'exploiter pour lui répondre. Et cela en conformité avec les textes légaux, notamment la procédure qui est prévue par notre règlement intérieur, à son article 94 et 95, où il y a toute une procédure. Donc, cette demande, ce n'est pas que nous allons répondre à cela immédiatement. Lui-même, le procureur, il sait que ce n'est pas du jour au lendemain. C'est une série qui va se poursuivre. Notamment, une commission devra être mise en place, les députés devraient être attendus. Même lui-même, le procureur, il devra aussi venir pour étayer la thèse de la commission. Mais c'est maintenant après cela que l'on va soumettre la conclusion de ce rapport à la souveraineté de la plénière qui devra se prononcer là-dessus. Donc, de ce côté-là, ma réaction, c'est de laisser la procédure se poursuivre normalement et puis on verra ce que la conclusion de la commission donnera et puis nous allons nous aligner derrière cette décision et puis la décision qui prendra la plénière. La justice est souveraine, elle a seulement des éléments qui l'a poussé à pouvoir nous saisir pour demander à ce que nous puissions donner l'autorisation de poursuivre ces députés. Mais qu'à cela ne tienne, nous, de notre côté, nous allons nous conformer aux textes légaux.
Pour moi, la protection des civils est primordiale. Voilà pourquoi nous devons beaucoup travailler pour découvrir les causes des violences qui perdurent en Ituri. C'est l'essentiel de la déclaration du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui a clôturé sa visite hier mardi à Bounia. Durant son bref séjour dans cette province où il a rencontré le gouverneur, il s'est également rendu dans le site des déplacés de Tséré, à une dizaine de kilomètres de la ville de Bounia. Volker Turk se dit profondément peiné par la situation humanitaire alarmante dans ce site qui héberge plus de 800 ménages de déplacés. Pour lui, cette situation nécessite un travail commun entre le gouvernement et ses partenaires, dont la MONUSCO, pour améliorer les conditions de vie de ces vulnérables. Il est au micro d'Ezekiel Mouzalir.
Je suis très content d'avoir rencontré le gouverneur et aussi les personnes déplacées qui vivent dans le site. Et je dois vous dire, ça me brise le cœur de les entendre, de savoir comment ils souffrent pour ne pas pouvoir retourner dans leur zone d'origine. Tout d'abord, il faut toujours penser à ceux qui ont souffert. Alors pour moi, la protection des civils est primordiale. C'est une priorité absolue. Il faut travailler sur les causes qui sont derrière cette violence. Les gens veulent avoir une influence, ils utilisent la violence pour avoir cela. Ça ne peut pas être acceptable. Ils m'ont dit que ce qu'ils veulent, qu'il y a plus d'efforts pour sécuriser leur zone d'origine. Et qu'il faut aussi travailler sur le système judiciaire et le système, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont violé les droits humains et qui ont commis des abus, et il faut faire en sorte qu'on arrête ça. C'est clair que la protection des civils est la priorité absolue, et il ne faut pas qu'il y ait un vide sécuritaire.
Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme était accompagné en Ituri par le ministre des Droits humains et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Au Nord Kivu, le Parlement d'enfants de la ville de Beni condamne l'utilisation des enfants dans des manifestations organisées dans la ville. Hier, par exemple, de nombreux enfants habillés en uniforme scolaire ont été aperçus parmi les adultes en train de manifester pour dénoncer la multiplication des attaques des ADF dans la région de Beni. Le porte-parole du Parlement d'enfants de Beni parle d'une violation des droits des enfants et appelle à leur protection. Hope Jaoto est au téléphone de Marc Marofimbo.
Nous sommes en face d'une situation très compliquée dans la ville de Beni, suite au massacre de la population. Et nous assistons à une marche des militants ce mardi, ce qui suspend certaines activités et même les cours. Mais nous sommes plus choqués de constater la présence ou l'utilisation des enfants dans cette marche. L'enfant a droit à la protection dans sa famille, a aussi droit à la protection dans la société. L'utilisation de l'enfant dans les forces et groupes armés est strictement interdite et l'État garantit la protection, l'éducation et les soins nécessaires aux enfants affectés par les conflits armés ou les troubles civils. Ainsi, nous demandons à tous les parents de pouvoir protéger leurs enfants à la maison, de pouvoir les surveiller pendant cette période et à l'État de pouvoir protéger les enfants d'une manière ou d'une autre, de les épargner de tous les dangers.
En sécurité à Goma au Nord Kivu, on en parle encore avec notamment de nouveaux cas qui marquent le début de cette semaine. On répertorie notamment des cas d'extorsion et de vol en plein jour dans des boutiques de vente des téléphones, un minibus d'un service d'aviation touché par une balle, à la mi-journée de lundi et le cas de meurtre de deux policiers par des individus armés la nuit de lundi au quartier Katoy, commune de Karisimbi. Chris Mukonde.
Des témoignages croisés renseignent que ces agents de police ont trouvé la mort au cours d'un échange de tirs avec des bandits. C'était aux environs des 22 heures locales, alors qu'ils tentaient d'empêcher le vol dans un centre de santé situé au quartier Katoy, dans la commune de Karisimbi. Des coups de feu nourris échangés à cette occasion retentis durant des heures, augmentant la psychose des habitants de plusieurs quartiers de la ville. Dans la soirée entre 19h et 20h du côté quartier Majengo, des alertes ont signalé la présence d'individus munis de fusils et d'armes blanches. À leur passage, ils ont ravi de l'argent, des téléphones et autres objets jugés de valeur. L'on parlait de trois personnes blessées quand elles ont tenté de faire face aux assaillants. Et à la mi-journée, le minibus d'un service d'aviation amenant un passager à l'aéroport international de Goma a été touché par une balle. Cela s'est passé à la hauteur du rond-point Rutshuru. La balle a percé la vitre du côté passager du bus. La circulation a été momentanément interrompue sur cette voie menant du centre-ville à l'aéroport de Goma, indiquent les témoins. Visiblement, des assurances des autorités au regard de tous ces incidents sécuritaires successifs sont grandement attendues par la population de Goma. Goma, Chris Mukonde, Radio Kapi.
Et puis sur les lignes de front, d'intenses combats ont opposé hier mardi les combattants du M23 à l'armée congolaise et ses alliés locaux et internationaux autour de Sake, dans le territoire de Masisi. Selon plusieurs sources locales, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues sur plusieurs collines surplombant Sake. Les combats dans cette zone s'intensifient depuis déjà 3 jours, indiquent ces sources. Monseigneur Mitia Leskovar est le nouveau nonce apostolique en République démocratique du Congo, annonce faite hier par la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO à travers un communiqué. Monseigneur Mitia Leskovar remplace Monseigneur Ettore Belestrero, désigné depuis l'année dernière comme observateur permanent du Vatican aux Nations Unies. Le portrait du nouveau nonce apostolique avec vous, Alain Hirong.
Monseigneur Mitia Leskovar est né à Kranj en Slovénie le 3 janvier 70 et a été ordonné prêtre le 29 juin 1995 pour l'archidiocèse de Ljubljana. Il est docteur en droit canonique. Il est rentré au service diplomatique du Saint-Siège en juillet 2001 et successivement a rendu service dans la nonciature apostolique en Bangladesh auprès de la section des affaires générales de la secrétairerie d'État dans les représentations diplomatiques pontificales en Allemagne et en Inde. Monseigneur Leskovar a été nommé nonce apostolique en Irak en mai 2020 et archevêque titulaire de Bénévent. Polyglotte, il parle français, italien, espagnol, allemand et croate.
Actualité internationale.
Des affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires ont tué au moins 25 civils à El Fasher, ville du Darfour Nord, longtemps épargnée par les combats et où vivent de nombreux réfugiés, ont affirmé hier un comité d'avocats pro-démocratie. Les Nations Unies et les États-Unis ont prévenu qu'une extension des troubles à El Fasher, seule capitale des 5 États du Darfour, à ne pas être aux mains de FSR, serait catastrophique pour les centaines de milliers de réfugiés qui s'y trouvent dans des conditions déjà précaires.
L'invité.
Une nouvelle plainte déposée au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe par la famille de feu Chérubin Okende. Selon l'avocat de cette famille, cette plainte a pour élément nouveau l'audio du ministre honoraire Moderon Simba, dont la justice doit se saisir pour établir la vérité sur la mort de l'ancien ministre des Transports. Pour en parler, Radio Okapi reçoit l'avocat de la famille du défunt, maître Laurent Onyemba, s'entretient avec Jeff Ngoy.
Laurent Onyemba, bonjour.
Bonjour.
Vous avez déposé une plainte dans l'affaire Chérubin. Qu'est-ce qu'il y a comme élément nouveau? Contre qui?
Bon, je remercie énormément la famille Chérubin Okende, la veuve et le papa du défunt. M'ont chargé de déposer une nouvelle plainte. Comme vous le savez, nous avons déposé la première plainte au parquet des grandes instances de Gombe et que, au terme d'une enquête, le parquet a abouti à une conclusion controversée en affirmant que M. Chérubin Okende s'est auto-infligé. Au regard des éléments nouveaux que nous avons suivis dans l'audio de M. Moderon Simba, qui devient aujourd'hui viral dans les réseaux sociaux, il est relaté minutieusement les mécanismes de la mort de l'honorable Chérubin Okende, construisant ainsi une nouvelle thèse qui parachève ou qui invalide complètement la conclusion du parquet. De ce fait, la famille a estimé que nous avons la responsabilité de ressaisir le parquet. Et cette fois-là, ce n'est pas le parquet près le tribunal de grande instance. Nous avons saisi le parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe parce que nous avons estimé que ce sont des magistrats chevronnés et qu'ils ont la capacité d'affronter la vérité sans nécessairement se nourrir de la thèse d'un suicide. Parce que pour la famille, s'il y a eu suicide, ça doit être absolument un suicide assisté. Au regard de l'audio de M. Moderon Simba qui est poursuivi aujourd'hui pour faux bruit, alors qu'au lieu d'aller dans le sens de faux bruit, il y a lieu de crever la vérité, crever l'abcès pour finalement rencontrer et rendre justice à la famille de M. Okende.
Est-ce que vous acquiescez le rapport du parquet près du tribunal de grande instance, puisqu'il attend toujours vos annotations sur le rapport qui vous a été transmis?
Nous avons reçu les copies du dossier par la procédure de l'EVPI. Et vous savez que nous sommes avocats. Nous sommes donc régis par une législation interne qui veut que les avocats, pour réagir dans ces circonstances, obtiennent l'autorisation de leurs barreaux respectifs. Dans les collectifs, nous avons deux avocats du barreau de Matete et deux avocats du barreau de Gombe. J'ai cité Maître Talou Semanongue et Maître Blaise Lunda. À ce jour, nous avons adressé des lettres à nos barreaux respectifs et que nous continuons à attendre. Malheureusement, ça a pris un peu de temps, mais les barreaux ont son rythme, les bâtonniers ont leur rythme de travail, donc nous sommes confiants que nous aurons ces autorisations.
L'autorisation, c'est pour vous exprimer, puisque là, déjà, vous vous exprimez.
Non, mais ici, c'est par rapport à l'élément nouveau, ici. L'autorisation, c'est justement pour rencontrer et critiquer la décision du parquet. C'est-à-dire que nous sommes sous serment de respecter les décisions de la justice. Mais ici, nous avons besoin plutôt de rencontrer les préoccupations pour démontrer les infirmités dans l'architecture de la réflexion du parquet au regard des pièces qui sont à notre possession. Et pour ça, il faut absolument l'autorisation du bâtonnier. Ici, je vous explique les circonstances de notre nouvelle plainte, mais qui échappe justement au champ de la stricte analyse de la plainte et de la conclusion du parquet dans les dossiers que nous avons déposés avant. Il faut aussi rappeler que le parquet lui-même, avant notre plainte, avait ouvert un dossier judiciaire. Et donc, il s'agit de cela.
Moderon Simba, nous l'avons suivi devant la cour de cassation. Il réfute l'audio que vous dites. Ça constitue un élément nouveau au dossier que vous avez introduit. Mais lui-même, Moderon, ne reconnaît pas cet audio-là.
Non, il n'y a que deux démarches à comprendre. Si Moderon Simba est acquitté du fait que cet audio n'est pas authentique, nous allons en tirer toutes les conséquences. Mais si vous répétez les propos de Moderon, pourquoi vous ne répétez pas les propos du procureur qui l'accuse, qui l'a dit, et que le procureur soutient que l'audio est de Moderon et qu'il n'a jamais eu un montage? Vous voulez nous dire que le procureur de la République, à ce niveau, près la cour de cassation, va devoir déférer un ministre honoraire et un député en fonction devant la cour de cassation sans fondamentalement se rassurer que l'audio est cohérent?
Où en êtes-vous avec la saisine de la justice internationale puisque la justice congolaise ne semble pas vous satisfaire?
Bon, là, il faut poser la question à mes confrères qui sont en Belgique et à Paris. Moi, je suis avocat au Congo et j'opère devant la juridiction congolaise. Le jour où je vais aller devant la juridiction internationale, j'ai répondu à votre question.
Merci Laurent Onyemba.
Merci.